pays. Paysan. Paysage. Un tour au musée de la Chalosse.
Installé dans un écrin de verdure sur le site du domaine de Carcher à Montfort-en-Chalosse, le musée de la Chalosse vous fait découvrir l'autre visage des Landes. Celui plus vallonné, plus fertile que les Landes de pins au nord de l'Adour. Un pays qui, pour certains, est le véritable jardin secret des Landes, la Chalosse. Marqué par un paysage spécifique et une histoire singulière, la Chalosse se raconte à travers son musée, mais se découvre aussi au fil de ses territoires. Dans cette émission, tous les mois, nous reviendrons sur les recherches actuellement en cours autour du thème de l'exposition 2021 du musée de la Chalosse, des bars et des histoires. Avec la complicité du collectif artistique du Demi-Tour de France, des membres du comité scientifique de l'exposition et de l'équipe du musée, on évoque ensemble la Chalosse d'hier et d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, on voulait vous parler d'amour, du café comme lieu de rencontre, voire de l'union et parfois de la vie à deux. En route pour le café des amoureux.
Des tours, des détours, un demi-tour en Chalosse.
Demi-Tour de France, c'est un duo composé de Marie Boutier, vidéaste, et Anouk Lemarquis, architecte, toutes deux photographes qui parcourent les territoires pour en saisir les traces de vie enfuie il n'y a pas si longtemps. Les deux artistes sont venus en résidence en terre de Chalosse entre octobre 2019 et septembre 2020 pour y rencontrer les cafetiers, les chalossés. Elles se sont mises sur la piste de l'esprit des lieux, circulant des cafés d'hier à ceux d'aujourd'hui. Pour cette séquence, elles sont chez Marcel, le dernier café du village de l'Arbeille, et partagent les souvenirs émus d'un des clients du bar.
En rencontrant Anouk et Marie, elles nous ont parlé de la multitude, ça m'est revenu, de la multitude des cafés qu'il y avait dans les villages. De la distribution de vin, surtout, non ? Je ne me trompe pas. Parce qu'il y avait beaucoup de vin ici dans la Chalosse, il y avait des vignes. Donc beaucoup de ce vin était vendu sur place pratiquement, dans les maisons. Voilà. Et d'où ces cafés, puis il n'y avait pas de licence, tous ces cafés naissaient un peu partout parce que, mais comme des personnes comme vous pouvaient avoir 3 tonneaux de vin ou 4 tonneaux de vin, il y avait une ou deux tables dans la maison et ça occupait les gens qui venaient boire, comme ils disaient, un pion. C'est bien ça ? La chopine. Et alors la chopine était de rouge, de blanc ou de paillé, voilà. Puisque le rosé n'existait pas.
Champagnette.
Avec de la limonade.
De la limonade.
Voilà. Ouais, ouais. Et donc beaucoup de femmes tenaient ces cafés chez elles. C'était ça. D'accord. C'est formidable ce truc. Alors ça m'est remonté à la tête le fait qu'elles en parlent, parce que moi j'avais complètement oublié ça, parce que moi j'ai connu ça aussi. J'ai 70 ans et donc j'ai connu ce genre de petit bistrot là, où on allait. Ouais, alors je vais vous expliquer pourquoi. J'allais au bistrot parce qu'il y en avait un à côté de chez moi. Et c'était souvent associé au quillet. C'était associé au quillet. Donc il y en avait toujours un, et c'était toujours des endroits très frais, parce que toujours c'était toujours tout fermé, puis les gens étaient dans le coin où ils tapaient le carton. Ou... Quille de 9, de 6, monsieur. Il y avait les deux, ouais. Oui, mais c'est la 6 qui était le plus courant dans les cafés, voilà. La 9, elle était plutôt dans les salles bien appropriées pour ça.
Ouais.
Et vous alliez où au café, dans quel village ?
Alors, c'était à côté de chez moi, Saint-Paul-et-Dax. Le café était très très vieux, il s'appelait le Piou. Il existe toujours. Il existe toujours. J'ai eu même la chance, à l'époque quand j'étais gamin, pardon, de voir passer le général de Gaulle là, dans sa grande voiture. Et donc c'était quand même assez sympa, ouais. Il y avait toute une enfance que je pense les jeunes de maintenant... On avait le droit d'avoir une adolescence aussi, que maintenant ils n'ont plus le droit pratiquement. On les projette dans le fait d'avoir la majorité à 18 ans, alors que nous c'était à 21 ans à l'époque, hein, c'était ça. On ne faisait pas grand-chose avant 21 ans. Hein.
Non, non.
Surtout pour une fille. Alors moi aussi, après, quand j'ai eu l'âge de sortir, mais je suis sorti même très, très jeune, on allait dans les villages comme ça. On y allait en mobylette hein, ou en vélo. Voilà. Quand c'était pas trop loin.
Il n'y avait pas de voiture, non.
Voilà. Alors on allait au bal. Et alors, c'était bien parce que dans les salles, les filles, elles étaient assises sur les bancs qui étaient tout autour.
Et la maman derrière.
Et la maman derrière, ou la copine.
Alors,
et voilà, c'était toujours bien, ouais. Alors, quand la lumière s'éteignait pour aller danser le slow, eh bien, tous les gars, les uns derrière les autres, ils allaient inviter les filles. Vous dansez, mademoiselle. Alors, il y avait toujours le gag, elle disait à sa copine, oui, tiens-moi le sac. Et elle partait danser. Alors, à l'époque, je peux le dire, je peux parler parce que je parle beaucoup, moi. À l'époque, il y avait une chose qu'il fallait savoir faire. C'était danser d'autres danses que le slow. Parce que le slow n'existe plus maintenant, je pense pas. Enfin. Et il fallait savoir danser le cha-cha-cha, le paso doble et tout ça. Et puis il y avait un truc qui était très moderne, c'était le rock'n'roll. Alors il y avait une chose qu'il fallait bien faire, c'était apprendre à danser le rock'n'roll très vite. Parce que quand on invitait une fille qui nous plaisait physiquement, pour la garder, il fallait savoir danser le rock. Parce qu'en suivant des slows, il y avait souvent un rock. Et si on savait pas, la fille, elle repartait s'asseoir. Et il y avait toujours le gars qui allait danser le rock, qui allait l'inviter. Mais vous, quand vous reveniez pour l'inviter le slow, walou, vous pouviez plus, le gars, vous l'avez piqué. C'est bien ça? Hein? D'accord. Alors, dans moi, j'ai vite appris à danser le rock. Avec une amie qui m'a appris à danser le rock et moi. Et ça, c'était bien parce qu'on pouvait garder les filles avec nous et discuter. Alors souvent, elles disaient « Ah, oh, mais je sais pas le danser », mais ça fait rien. Danser le rock, voilà, c'était passer un moment avec la fille pour pas qu'elle nous échappe, quoi. C'était une belle époque. C'était une époque sympathique. Une époque sympathique, ouais.
Ça manque les balles, maintenant.
Il y avait un relationnel vraiment très important entre les gens. Ouais, il y avait ça frottait de temps en temps, mais bon, c'était très très important. On avait plaisir à se retrouver parce qu'on se connaissait physiquement, à se voir et partout où on allait dans les bals. Et puis, de toute façon, dès que vous alliez dans un bal qui était assez éloigné, tout le monde, quand vous rentrez, tout le monde vous regardait parce que d'où ils viennent ceux-là. Et alors souvent les garçons du village ils disaient putain viens nous faire pardon, enfin pardon pour le putain. Il vient nous piquer les gonzesses. C'était bien, hein?
Oui.
C'était bien.
Et Marcel, vous alliez où au bal, vous?
Pas trop loin, hein, les villages à côté. C'est tout, hein.
Et à l'Arbé, il y avait le bal aussi?
Oui, de temps en temps, pas. Là, ils faisaient souvent bal, à Bois Sec, là. Aussi, ils faisaient bal, justement, pour les fêtes, comme ça, mais. Pas trop loin, hein.
Et après, dans quel village, autour?
On allait à Poyalé, là, à Saint-Aubert, à Copenne, à Maïlis, et voilà, à Berouet aussi, on allait.
Et vous dansez le rock aussi?
Ah, oui, on dansait tout autrefois. Oui, j'aimais danser, moi. Maintenant, lui, il est jeune par rapport à moi.
Non, vous êtes tout jeune.
Oui, 10 ans de plus que vous.
Ah oui, quand même.
Ah oui.
Donc, et...
Vous êtes bien dans l'émission Pays, paysans, paysages sur Radio MDM.
Bonjour Marie Dourte.
Bonjour.
Vous êtes directrice du musée de la Chalosse et commissaire générale de l'exposition.
Le coin des historiens.
Peut-on parler du café comme du lieu de la rencontre ?
Oui, et c'est même la principale fonction sociale du café, en fait. Et comme vous l'avez montré dans vos précédentes émissions, ce n'est pas qu'un débit de boisson. D'abord, très prosaïquement, On peut dire que c'est le lieu des affaires, entre guillemets. C'est souvent là, en fait, que, avant de penser à s'unir, à se marier, le destin des futurs époux se noue par une rencontre entre les chefs de famille pour parler promesses de mariage, et c'est là qu'on négocie la dot, en fait.
Les promesses, les dots, on ne parle pas trop d'amour, là.
Non, on parle de négociation, ce que je vous disais, c'est le coin des affaires, parce que le café, c'est le lieu de passage à l'origine, qui accueillait les pèlerins et également les commerçants voyageurs. Et du coup, c'est là que se joue le commerce. Donc par extension, bah, la promesse de mariage et les négociations entre familles pouvaient se dérouler là. Par contre, une anecdote peut-être un petit peu plus souriante, c'est aussi au café que jusque dans les années 70-80, on va faire se jouer le repas, la noce du mariage. Évidemment, pendant les recherches liées à l'exposition, nous avons retrouvé plusieurs clichés, des photos de mariage où les participants à la noce se sont tous rassemblés sur le perron du café. Donc on voit que mariage et bistrot, en fait, sont souvent liés. Et dans la mémoire des cafetiers, ces repas de groupe très particuliers à la campagne ont laissé de grands souvenirs.
Donc si l'on comprend bien, café, bistrot, ça rime avec bonheur, mais est-ce que de temps en temps il y a eu des cas de séparation fracassante ou de divorce? Vous avez des exemples?
Ah là là, oui. Alors, divorce, on ne sait pas comment l'affaire s'est terminée, mais si je vous lis cet extrait de la plainte de Gracie Loustalot, la femme de Jean Poublanc, le 28 septembre 1782, déposée auprès du juge de Peyrorade, vous allez voir que il se passait pas toujours des choses ni très amicales, ni très amoureuses au café. Elle supplie humblement le juge en disant que jeudi dernier, vers 10h du soir, elle était en peine de son mari, qui était sorti aussitôt qu'il eut soupé. Elle fut le trouver chez Gracian Erquin, cabaretier, buvant avec celui-ci. La suppliante observa à son mari, qu'il était 10h et tenu de se retirer ainsi qu'il n'avait qu'à s'en venir, autrement qu'elle fermerait les portes. Le dit Poublanc ne tint aucun compte de la représentation de la suppliante. Il le méprisa au contraire et continua de boire avec le dit Erquin pendant toute la nuit. La suppliante s'étant retirée, Gracian Erquin, si je peux me permettre, c'est le cabaretier, c'est pas le mari, retint le dit Poublanc et il lui dit « Votre femme est une vraie vivandière et vous êtes un connard, car votre femme est une putain avérée et une garce ». Il n'en faut sans doute pas davantage pour causer un désordre irréparable entre un mari et une femme. Là, c'est le juge qui est philosophe. Les désunions veulent presque toujours, dans de pareilles circonstances, feu s'en suivre. Voilà, alors la suppliante est venue porter plainte pour avoir réparation par rapport à sa réputation. Mais ça vous dit bien que, évidemment, comme on l'a montré, comme vous l'avez montré dans une précédente émission, le cabaret, c'est le lieu des excès, et évidemment, ça peut faire des ravages dans un couple.
Donc il y a des promesses, il y a des déchirures, mais il y a de l'amour dans tout cela?
Alors, on pourrait le retrouver dans la trace qu'on a retrouvée dans beaucoup, quand même, dans beaucoup de cafés, dans le fait que beaucoup de lieux ont été tenus de manière partagée. Ce qu'on a pu constater, c'est que très souvent, on dit que l'aubergiste ou le cafetier avait plusieurs métiers. Mais en fait, ce qu'on lit un petit peu entre les lignes, c'est que en général, c'est le mari qui est propriétaire ou des murs ou de la licence et qui a un autre métier, et c'est donc sa femme qui tient l'auberge ou le bar. Donc cette place un petit peu invisible des femmes, elle est un peu invisible dans les archives, mais par contre dans les témoignages, dans les souvenirs qui nous parlent du rôle des femmes dans les cafés, dans la mémoire de la cuisine, hein, parce que souvent c'était leur place dans l'ombre de la cuisine et dans l'ombre de leur mari, du coup, les femmes sont encore dans les souvenirs, voilà. Mais certains exemples historiques peuvent parfois les passer au premier plan. Ainsi, on peut prendre l'exemple de la fameuse muse limonadière au XVIIIe siècle. C'était en fait Madame Curé Bourrette qui se piquait de verre. En fait, c'était l'épouse d'un limonadier qui l'avait mise comme dame de comptoir. Et donc, elle se piquait de faire des rimes que Voltaire trouvait épouvantables, entre parenthèses. Mais disons que c'était là que la place des femmes était, hein, au niveau de l'encaissement des boissons, pour le paiement des boissons. Donc, elles avaient un rôle public qui était où elles devaient avoir une certaine contenance et se tenir bien, si elles étaient jeunes. Et puis, dans la mémoire populaire, parfois, c'était plutôt des mères, comme les matrones, disons, et parfois aussi les mères maquerelles. Mais bon, ça, c'est une toute autre histoire que je ne relirai pas à l'histoire de l'amour dans les cafés, bien sûr, même si c'est aussi une réalité.
Ainsi, le café des amoureux, c'est surtout celui de la rencontre et du partage, et donc de la vie du village, véritable cœur battant. Il fédère autour de lui bien des initiatives, tant publiques que privées, qui favorisent le vivre ensemble. On explore tout cela dans la future émission. Rendez-vous le mois prochain pour en savoir plus.
Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. Nanana, elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalo cherchent du regard un spot, le dieu projecteur. Et moi je n'en pouvais plus, bien sûr elle ne m'a pas vu, perdu dans sa mégalo. Moi j'étais de trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. La chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Nanana, la fille aux yeux mentalo, Hollywood est dans sa tête. Toute seule elle répète son entrée dans un studio, décor couleur mentalo, perdu dans sa mégalo. Moi je suis le trop. Et le charme est tombé, arrêtant le flipper. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox. La fille aux yeux mentalo a rangé sa mégalo et s'est soumise aux yeux noirs, couleur de trottoir. Et moi je n'en pouvais plus, elle n'en a jamais rien su. Ma plus jolie des mythos, couleur mentalo.
Léo, qu'il y a de Nao.
Bonjour Elvia, quoi de neuf ce mois-ci ?
La médiathèque de Mugron propose un café lecture le mardi 1er juin à 19h30 pour partager et discuter, comme au café, autour des livres que l'on a aimés. Ou non. Le samedi 12 juin, de 10h à 18h, devrait avoir lieu la fête du jeu dans le réseau des médiathèques Terre de Chalosse. Cette fête intercommunale accueillera la restitution du travail des enfants de l'accueil de loisirs de Montfort-en-Chalosse, dont le thème porte sur les jeux de bistrot et de comptoir. Le mercredi 16 juin, ce sont les amis du musée de la Chalosse qui vous donnent rendez-vous pour une conférence animée par Bernard Trémont. Bernard Trémont est professeur émérite d'anthropologie à l'Université de Bordeaux. Il est également membre du comité scientifique de l'exposition « Des bars et des histoires ». Lors de cette conférence, il reviendra sur le sujet de son dernier ouvrage « Rugby, palombe, cercle, l'art de créer du lien, la sociabilité rurale landaise ». Rendez-vous le 16 juin à 15h à Montfort-en-Chalosse. L'entrée est gratuite, mais il est indispensable de réserver en appelant le musée au 05 58 98 69 27. Pour être informé des conditions d'accès actualisées, nous vous invitons à consulter la page dédiée à la programmation évolutive sur le site internet du musée de la Chalosse. En attendant, prenez soin de vous.
Merci à Anouk et Marie du Demi-Tour de France, à Marie Dourte et Elvia, à Radio MDM, à Dichette et à bientôt en Chalosse. Oh yeah!